Bonjour à tous, bienvenue dans le LEM ce midi. Alors dans le LEM, c'est un voyage que nous allons vous proposer, un voyage dans le temps. Les affres et autres turpitudes du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution n'auront ainsi plus de secrets pour vous après cette émission. Et c'est encore plus intéressant lorsqu'on évoque cette période sur notre territoire. Puisque, paraît-il, un certain monastère situé sur la presqu'île de Crozon attirait les convoitises. Vous l'avez sans doute compris, aujourd'hui nous parlerons du musée de l'ancienne abbaye de Landévennec. Le musée propose une nouvelle exposition autour des pillards et des pèlerins qui ont laissé des traces du côté de l'abbaye. Nous serons avec Guénolé Ridoux, commissaire de cette nouvelle exposition, et nous tenterons donc de vous donner envie de visiter ce musée et de découvrir cette nouvelle exposition. Alors débutons cette émission du vendredi en accueillant Guénolé Ridoux. Bonjour.
Bonjour.
Alors une nouvelle exposition ouvre ses portes, est-ce que tout est fin prêt ?
Tout est fin prêt, on attend les visiteurs à partir d'après-demain, dimanche 9 avril.
Alors si on devait résumer cette exposition, est-ce qu'elle veut démontrer que l'abbaye de Landévennec était un lieu de passage depuis la création de l'abbaye ?
Tout à fait. Alors en fait c'est un peu effectivement un paradoxe parce que normalement les monastères, enfin les moines vivent en dehors du monde, donc dans une clôture à l'écart des visiteurs. Et en réalité, on va s'apercevoir avec les fouilles archéologiques, avec du travail en archives également, que des laïcs assez nombreux, donc des gens qui n'étaient ni des moines ni des prêtres, sont venus au monastère entre le début du Moyen-Âge et la Révolution française.
Alors l'exposition nous fait découvrir tour à tour différentes périodes historiques qui nous replongent dans des contextes géopolitiques assez différents d'aujourd'hui, il faut quand même l'admettre. D'abord les Vikings, puis le contexte des guerres de Cent Ans, puis les guerres de succession en Bretagne. Alors qu'est-ce qu'il a ce monastère, qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire pour attirer autant de pilleurs notamment ?
Alors le monastère, il a une chance extraordinaire, c'est qu'il est posé dans un paysage qui est magnifique, qui est l'Aulne, et le moment où l'Aulne rentre dans la rade de Brest. Alors c'est vraiment très bien pour lui, c'est très beau aujourd'hui, mais ça a été aussi une malédiction pendant une longue période de son histoire, parce que eh bien au large de Brest, on a des navigations importantes, ça va être des lieux de passage notamment. Des armées anglaises, des armées espagnoles qui vont attaquer ensuite l'Angleterre. Et donc, au fur et à mesure que les armées passent, notamment, on va avoir effectivement des pillards qui vont passer par le monastère de Landévennec.
Pourquoi est-ce qu'ils pillent ? Ils n'ont rien fait ?
Alors, les moines n'ont rien fait. Par contre, les moines, à ces périodes, sont riches. Hein. Les abbayes sont aussi des seigneuries avec une puissance foncière. Et donc, dans les monastères, les troupes en campagne espèrent trouver des ressources pour nourrir simplement les soldats.
Donc, il y a aussi un petit côté butin dans l'affaire, quoi.
Il y a un côté butin aussi. Alors, non seulement pour nourrir, vous avez raison, mais en plus aussi pour payer les soldats, parce que le butin, ça fait partie, au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, en fait, ça fait partie de la rémunération normale hein, des soldats.
Mais qui est-ce qui vient voler, donc, du coup, cette pauvre abbaye et ces pauvres moines ?
Qu'est-ce qu'ils viennent prendre ?
Mais qui vient les voler, techniquement ?
Qui vient les voler ? Alors, il y a beaucoup de monde, en fait, qui vient les voler au fur et à mesure de l'histoire. Ça commence par les Vikings au début du Moyen-Âge. Donc les Vikings viennent à Landévennec en 913. On a un manuscrit qui est aujourd'hui conservé à Copenhague qui parle de ça. Et puis sur le site, on va retrouver des indices aussi de ce passage. Et c'est ce qu'on propose de mettre dans l'exposition, justement les indices, un peu reconstituer l'enquête.
Et puis quand on parle des Vikings, c'est les ancêtres des Normands. On oublie toujours que les Vikings étaient installés du côté de la Normandie actuelle.
Voilà, tout à fait. Alors en fait, les Vikings au départ viennent de Scandinavie, mais ils vont s'installer en Normandie, enfin dans la région qui viendra plus tard la Normandie. Et puis ils vont s'installer aussi dans l'embouchure de la Loire. En fait, à ce moment-là, on a vraiment deux enclaves vikings au Xe siècle dans la Normandie et dans la Loire. Dans la Loire, ça ne restera pas longtemps. Nantes aujourd'hui n'est pas une Normandie. Par contre, ça restera bien. Effectivement, on aura bien une implantation en Normandie assez longtemps, qui deviendra le futur comté de Normandie.
Guillaume d'Orange, c'est un descendant de ces Vikings.
Alors effectivement, ensuite on va avoir beaucoup on va avoir une aristocratie qui va se développer à partir de ça, à partir de Rollon. On parle de Rollon, le premier fondateur des.
C'était le grand-père ou.
C'était l'aïeul de Guillaume le Conquérant, par exemple. Voilà. Donc ensuite on va avoir toute une dynastie, même des rois qui vont descendre de ces Vikings.
Et qui a conquis l'Angleterre.
Qui a conquis l'Angleterre, tout à fait.
Bataille d'Hastings.
Bravo.
1066.
C'est ça.
Et donc, les Vikings viennent chercher du coup ces pauvres moines. Enfin, on sait ce qui leur arrive aux moines, techniquement. Les relations sont
Tendue,
cordiale.
On peut s'attendre à ce qu'elle soit
Comme quand on vient vous voler quelque chose, quoi.
Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez particulier parce que les moines de Landévennec semblent avoir été avertis de l'arrivée des Vikings. Comment, on sait pas très bien. On sait qu'ils avaient un prieuré sur l'île de Sein. Peut-être que c'était une manière de contrôler ce qui se passait au large de la rade de Brest et que comme ça, ils avaient été avertis. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils partent du monastère avec leurs reliques et ils partent aussi avec leurs livres, ce qui veut dire qu'ils ont préparé leur départ. Ils fuient pas le monastère dans une précipitation, donc c'est pas ils voient les Vikings arriver, ils s'enfuient, c'est plutôt ils savent que les Vikings vont bientôt arriver, ils partent avant l'arrivée des Vikings, et donc c'est un pillage sans combat, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'abbaye elle est déjà désertée par les moines lorsque les Vikings arrivent.
Alors là, on évoque les Vikings, mais bien après encore, sous le contexte des guerres de 100 ans, les guerres de succession, ça n'arrête pas en fait. Mais comment le fait le monastère pour se reconstruire, enfin se revigorer à chaque fois et ne pas perdre de son rayonnement?
Alors souvent, ça lui prend du temps. Par exemple, après l'attaque des Vikings, justement, on va avoir donc l'attaque des Vikings, c'est en 913, et l'abbaye va être complètement reconstruite en 1025. Donc les moines reviennent en 936, mais dans un premier temps, ils habitent dans ce qui reste de leur abbaye, qui est reconstruite tant bien que mal. Donc ça leur prend près d'un siècle pour se remettre en situation. Et puis, à chaque fois, ça va être la même chose. On va avoir des attaques qui vont affaiblir le monastère dans des périodes de troubles, et il va falloir un certain temps à chaque fois pour les moines pour reconstituer leur abbaye.
Alors, il y a de nombreuses traces de ces différents passages. Ce qui m'a beaucoup surpris à la visite de l'exposition, que j'ai pu faire en exclusivité, merci. ce qui m'a énormément surpris, c'est le nombre de pièces de monnaie aux origines diverses, qui viennent d'un peu partout, quoi, qui ont été laissées sur place par les visiteurs. Alors, là, c'est pas, pour le coup, c'est pas des pilleurs. Là, c'est des pèlerins qui laissent des traces.
Alors, effectivement. Et puis, en plus, on a un peu les deux. On a aussi des monnaies anglaises, par exemple, pendant les guerres de succession, c'est-à-dire pendant les guerres de 100 ans, des monnaies anglaises qui vont être retrouvées sur le site et qui sont très probablement liées, justement, à ces attaques des Anglais sur l'abbaye de Landévennec, qui vont être assez nombreuses. On en a en 1296, en 1343, en 1387, des troupes anglaises qui passent à Landévennec et donc qui vont des soldats suffisamment riches pour perdre des monnaies, pour avoir des monnaies importantes, pour les perdre et pour pas les chercher derrière eux. Et surtout, vous avez raison, on a des monnaies de pèlerins. Notamment au XIe siècle, il y a l'abbaye qui vient d'être reconstruite intégralement, qui attire des pèlerins assez nombreux. Et on va avoir des visiteurs qui vont perdre des monnaies en grande quantité, des monnaies qui coûtent cher. Et donc, encore une fois, des visiteurs qui sont des visiteurs riches, a priori, des pèlerins de classe sociale élevée.
Ça devrait plaire aux fans de numismatique.
Voilà, et puis aux fans d'enquête archéologique et d'enquête scientifique, parce que c'est vraiment sur ça.
Parce qu'elles sont en bon état, les pièces qui sont mises en exposition, on peut voir ce qui est écrit dessus.
Oui, on peut voir ce qui est écrit dessus, et c'est comme ça effectivement qu'elles sont identifiées par les spécialistes.
Alors, l'exposition montre aussi d'autres nombreux objets, comme par exemple une lance, on parlait des pièces, on parlait des armatures de livres, si je ne me trompe pas aussi. Et alors il y a quelque chose d'assez surprenant aussi, l'amateur de pierre et d'artisanat pourra tous être aussi surpris de voir du calcaire qui aurait été taillé sur place. C'est quelque chose de très intéressant ça. Et vous mettez les outils qui auraient pu servir du coup à cette taille à proximité.
Tout à fait. Alors au XIIIe siècle l'abbaye de Landévennec est reconstruite en partie avec des pierres calcaires. Alors les pierres calcaires, c'est pas du tout une pierre qu'on trouve facilement dans nos régions. Et là, on est sur du très bon calcaire, hein, vraiment du calcaire parfait pour faire des constructions architecturales. Et on a fait des analyses, on sait que c'est du calcaire qui vient de Normandie, de la région de Caen, c'est la pierre de Caen en fait, tout simplement. Ce qui est étonnant, c'est qu'on va retrouver, les archéologues retrouvent des traces, des débris de taille de calcaire, ce qui veut dire qu'on a apporté des blocs de calcaire qui n'étaient pas encore taillés, on les a taillés sur place, et les personnes qui les ont taillés connaissaient très bien le matériau, parce que les sculptures que l'on a, ce sont des très belles sculptures, très bien faites, donc quelqu'un qui connaissait bien la matière, probablement en fait des artisans qui venaient de Normandie en même temps que les pierres.
Alors là, je vais, pour terminer cette première partie d'interview, on va parler des traces ultimes, puisque j'en ai pas parlé, c'est aussi un peu le clou de l'exposition, et c'est peut-être ce qui marque peut-être le plus, peut-être que ça va marquer, créer des vocations de futur Indiana Jones dès l'archéologie. C'est des traces clairement visibles, ce sont les ossements de deux personnes qui ont été enterrées, alors dans l'abbaye ou dans les alentours, on va pas trop en dire, on va rester quelque peu mystérieux, on va pas faire trop de teasing, mais l'exposition peut se terminer en véritable enquête avec ces deux personnes.
Voilà, tout à fait. En fait, là, on a l'occasion de faire un peu de paléoanthropologie, ça s'appelle comme ça. Et en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on a dans la série Bones. Hein, simplement, on va regarder les ossements et puis on va essayer de voir.
Tout à fait. Là, si vous avez des bases en médecine, comment ça s'appelle ? La science là où on fait des analyses sur les gens qui sont décédés.
Médecine légale.
C'est ça. Voilà.
Et on a effectivement alors des traces sur les os qui vont donner des indications, des fractures. On a des hématomes calcifiés, donc des os qui ont été déformés. On a des traces de muscles aussi sur certains ossements qui vont permettre en fait de savoir précisément quelles étaient les activités physiques de ces personnes et du coup de pouvoir déduire leur profession. Et puis on a une autre tombe qui a été cette fois-ci pillée. Alors je ne vais pas trop en dévoiler, mais
faut garder la surprise.
Avec la disposition des os, on arrive à savoir ce qui a été pillé. Et avec la disposition et les indices que l'on place dans l'exposition, on peut même savoir qui a pillé cette tombe.
Oui, et là oui, il y a quelques indices qui laissent penser que ce monsieur n'a pas subi des heures très heureuses, même après sa mort.
Après sa mort, ça a été effectivement perturbé.
Alors on va faire une première pause musicale avant de continuer à parler du musée de l'ancienne abbaye de Landévennec. Et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours à l'écoute du LEM sur Radio Évasion. Nous recevons Guénolé Ridou pour évoquer la nouvelle exposition qui ouvre donc ce dimanche au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec et qui a pour titre « Pillards, pèlerins, quand le monastère attire les foules ». Alors on l'évoquait juste avant notre pause musicale, cette exposition, à la fin, surtout dans sa dernière pièce, se transforme en véritable enquête. C'est aussi dans ce sens que sont proposées des animations durant les vacances.
Oui, tout à fait. On a des animations tous les jours, du lundi au vendredi, pendant les vacances de printemps.
Alors on peut faire le tour des animations. Hein.
Oui, alors on a des animations autour des manuscrits. En fait, on en a sur deux jours différents. Le lundi, c'est un atelier autour des entrelacs, le fait de décorer les livres. Et puis le jeudi, c'est une animation autour de la calligraphie, c'est-à-dire l'écriture au Moyen-Âge. Alors on fait ça à Landévennec parce que pendant très longtemps, on a eu un scriptorium, un atelier d'écriture au monastère de Landévennec qui était très important pour la région et dans lequel beaucoup de manuscrits, d'anciens manuscrits bretons, ont été copiés. On a aussi des animations évidemment autour de l'archéologie. Alors ça, c'est le mardi et le vendredi. C'est un peu une de nos animations phares. Hein. On explique justement quelles sont les techniques de fouilles, la stratigraphie, etc. C'est tout à fait adapté aux enfants. C'est très ludique. Hein. On met les mains dans la terre et puis on a une truelle et un pinceau et on essaye de découvrir l'histoire du monastère. Et puis, on a aussi une animation très ludique également qui se passe le mercredi. Et là, on est en fait sur une enquête, un peu comme dans notre exposition, sur une enquête autour d'un manuscrit qui a été dérobé aux moines. Et on essaye de retrouver, en rencontrant un peu les différents personnages qui vivent autour d'une abbaye à cette période-là, justement des laïcs et des moines, on essaye de savoir qui a volé ce manuscrit.
Il vaut mieux prendre réservation pour les animations ?
Tout à fait. Alors, on conseille de réserver. Donc, je rappelle, c'est à 14h30 du lundi au vendredi. Et on conseille de réserver à l'avance. Au moins un jour à l'avance, c'est quand même plus facile. Et il y a un numéro de téléphone, c'est le 02...
98 27 35 90.
Tout à fait. Merci.
C'est celui-là.
C'est celui-là.
Alors, tant qu'à laisser les enfants aussi s'amuser et puis découvrir l'histoire et l'archéologie, les parents, pendant ce temps-là, peuvent aussi donc faire d'autres choses sur le bourg de Landévennec et puis visiter les alentours de l'ancienne abbaye.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est le principe de ce qu'on appelle les après-midi en famille. À l'heure de l'atelier, donc déjà à 14h30, on a aussi une visite guidée du site archéologique et du musée. Donc, pendant que les bambins sont à l'atelier, on peut profiter en toute sérénité du site archéologique et du musée. Et puis, évidemment, venir à Landévennec, c'est aussi l'occasion d'une promenade. C'est un endroit qui est très beau, donc au fond de la rade de Brest. Le village est magnifique avec un cimetière marin et une église qui est très très belle également. C'est l'occasion d'aller faire un tour au cimetière des bateaux, par exemple, aussi.
Alors, quelles sont les autres idées à venir peut-être pour cet été ou d'autres thèmes d'exposition dans le futur ? Quels sont en fait les potentiels sujets de valorisation au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec ? Sur quoi on peut creuser ?
Sur quoi on creuse ? Alors nous, on creuse beaucoup parce qu'on est toujours effectivement dans l'archéologie. Mais il y a plein de projets qu'on a en tête. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des expositions qui sont toujours un petit peu décalées par rapport à l'histoire, apporter un point de vue un petit peu original en partant du site. Là, on travaille en ce moment sur les périodes anciennes, notamment sur la période carolingienne, parce que à cette période-là, au IXe siècle, l'abbaye de Landévennec, c'est vraiment une abbaye très importante à l'échelle régionale, avec éventuellement même des influences plus vastes.
Là, on revient vraiment aux racines du Moyen-Âge, là.
Là, on est aux racines du Moyen-Âge et puis on est même à la période des origines de la Bretagne. Vous savez qu'on est à la période du royaume de Bretagne. C'est la période de Nominoé, d'Erispoé. Et effectivement, c'est fondateur pour l'histoire de la région.
Eh bien, merci beaucoup, Guénolé Ridou, d'être venu nous parler de cette exposition. J'espère que ça aura donné envie aux gens d'y aller. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à voir. Surtout cette dernière pièce, à mon avis, qui va marquer pas mal de petits, je pense. Ouais. C'était mon cas.
On espère, en tout cas.
Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup.